Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Objectif numérique, épisode 45. Au menu, des objectifs pour photos d'avion, les prévisions de Canon pour 2014, des changements au niveau du droit d'auteur pour les photographes, des annonces de boîtiers pour Fuji, Panasonic et autres, le light painting réinventé et la critique du Nikon D610. Vaillancourt au micro et avec moi en personne François Blanchette.
Salut Stéphane.
Et via Skype, via les internets, Christian Jarry.
Salut Stéphane.
Bon, alors exceptionnellement, Christian n'est pas avec nous aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise.
Pourquoi donc?
Ah, des questions.
La maladie. Disons que ça ne vous tente pas d'avoir ce que j'ai eu pendant deux semaines.
Non, mais attends.
Ni les détails.
Il faut que tu nous dises au moins c'est quoi, là.
Une gastro aiguë.
Aïe, on comprend.
Reste à la maison.
C'est ça.
Bon.
On va utiliser l'Internet, c'est à ça que ça sert.
Ben oui, c'est ça. D'ailleurs, oui, avant de commencer l'épisode, on va juste faire un petit rappel au vote. Un appel au vote, en fait, pour le défi photo numéro 9 qui porte sur le noir et blanc. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez voter pour votre photo préférée. Et il y a un prix de 500 pics en jeu, donc un abonnement d'un an au plan Awesome, que j'aime dire Awesome.
Oui, non, c'est pas
mais
Awesome.
C'est surtout à cause de la série Chuck puis Unreal Tournament, le jeu là, PC, évidemment.
Ah oui, Captain Awesome.
Oui. Donc, premier sujet, en fait, on a reçu une question d'un auditeur au sujet d'objectifs spécifiquement pour faire de la photo d'avion. Et François va répondre. La question nous venait par courriel de Stéphane Oligny.
Oui, Stéphane Oligny voulait savoir. En fait, il fait beaucoup de photos d'avion. Il envisage de passer à un objectif de qualité supérieure parce qu'en ce moment, ce qu'il possède, c'est un Nikon D5200 avec un objectif Sigma 18-250. Bon, un 18-250, c'est le fameux objectif un peu passe-partout qui permet de tout faire, mais elle a ses limites, effectivement, parce que quand on va au bout de l'objectif, bien, on a une limite aussi souvent un peu de netteté, ce qu'on a déjà parlé par le passé, de la zone parfaite, disons, pour faire des photos. Donc, pour avoir une meilleure qualité d'image, il faut passer à un objectif de qualité supérieure et c'est ce qu'il est en train de faire. Il nous demande, il considère trois objectifs, en particulier la Nikon 70-200 f4, la 70-200 f2.8 et la 70-200 f2.8 de Sigma. Il nous demande notre avis là-dessus. Bon. Moi, ce que je pense, en partant, Stéphane fait de la photo d'avion. On s'entend que ça doit être principalement de jour. Mm-hmm. Donc, d'emblée, moi, j'ai envie de dire, on va tout de suite aller du côté de f4.
Oui.
f2.8, ça donne absolument rien de plus.
On l'éliminerait pour éviter une dépense inutile, une dépense supplémentaire.
Exactement. En tout cas, c'est ce que je ferais, moi, en me disant que c'est la seule chose que je ferais avec cet objectif-là, évidemment. C'est ça mon hobby, c'est de la photo d'avion. Évidemment, Stéphane, si tu désires faire de la photo ailleurs, disons à l'intérieur ou des trucs comme ça, là, il faut considérer la 2.8, mais étant donné que ta question est tournée autour de la prise d'avion, je te dirais d'aller vers la Nikon 70-200 f4. Pourquoi? Ben, parce qu'elle est moins chère, évidemment, qu'une 2.8. Je pense qu'il y a une bonne différence. Une 2.8, c'est autour de 2 000.
Mm-hmm.
Donc, mais ça doit être
400-500. Pourquoi pas la Sigma?
La Sigma qui considérait, c'est une 2.8 aussi. C'est autour du... Ça se trouve être autour du même prix qu'une Nikon F4 70-200.
Okay.
Donc, entre Nikon et Sigma, je pense que la qualité Nikon va être supérieure.
Ouais,
c'est
ouais,
pour
ouais,
ça que j'irais du côté de la F4.
Oui.
Si je peux même rajouter quelque chose, personnellement,
ouais, oui.
Il y a un excellent exemple aussi. Il y a beaucoup de monde qui s'imagine que parce que c'est à 2.8, ben l'objectif est automatiquement mieux. Or, si je me fie à Canon, beaucoup de monde ont tendance à dire que si vous voulez un objectif extrêmement clair avec une très très belle netteté, vous êtes mieux de prendre le 70-200 F4 que le 2.8.
Ouais, c'est ce que j'avais lu aussi déjà.
Ah bon.
Ouais.
Beaucoup de monde ont l'air de dire qu'il y a une plus grande netteté. Fait que c'est pas automatique que parce que votre objectif est plus grand qu'il est automatiquement mieux.
Effectivement, c'est ce que j'ai lu aussi. La F4 aurait une meilleure netteté, mais en toi puis moi, Christian, je pense pas qu'à l'œil, à moins d'aller dans le logiciel puis aller chercher vraiment des petits détails, je pense pas qu'on le voit tant que ça. Là, sur
non,
papier,
mais...
oui.
Oui, mais... je suis d'accord, sauf que si tu viens à faire des photos d'avion ou ce que tu risques d'être un peu plus éloigné, un peu de netteté peut peut-être te faire gagner quelque chose, par contre.
Bien, c'est un peu ce que Stéphane nous dit, justement. Lui, il aime beaucoup cropper ses photos, donc là, ça rentrerait en ligne de compte, justement. Et puis aussi, il nous mentionnait, est-ce que je devrais utiliser un doubleur,
c'est-à-dire un 2X ou un multiplicateur de focale.
Oui, c'est ça, 1.4 ou 2. Oui, effectivement, c'est jamais à laisser de côté parce que, comme option, parce qu'effectivement, on a en masse de lumière. Encore une fois, on shoot deux jours. Donc, on peut y aller avec un doubleur sans avoir peur de trop être fermé, être trop ouvert avec la diaphragme ou manquer de lumière plutôt. Fait que,
Par contre, si ma mémoire est bonne, si on utilise un x2, par contre, on perd deux crans. Donc, si tu prends la F4, tu te ramasserais à F8. Ce qui est quand même à prendre en considération, ce qui n'est pas la fin du monde si on est en plein jour.
Mais c'est ça, en plein jour.
C'est une considération. Ça peut devenir quand même une considération.
Ben, on peut ralentir encore assez la vitesse sans que ça devienne critique, je pense.
Oui, c'est vrai, mais c'est juste,
Oui, c'est à prendre en considération, comme tu dis. C'est d'avoir tous les éléments sous les yeux pour faire une décision, prendre une décision éclairée.
Oui. Et Stéphane avait une sous-question aussi qui m'a bien fait rire. Il nous demande, les gars, pourquoi vous êtes tous en Canon? Fait que je vous laisse répondre, t'sais, Stéphane, toi, par exemple.
Ben moi, vois-tu, je ne suis plus uniquement en Canon, car hier, j'ai reçu, il y a quelques jours, parce qu'on diffuse dans quelques jours, j'ai reçu enfin le Sony A7, donc un appareil hybride ou sans miroir, pour utiliser un anglicisme, le mirrorless, capteur plein format. Donc, depuis hier, je m'amuse. Je suis comme un enfant qui vient de déballer son cadeau de Noël.
Vous devriez lui voir le sourire d'en face en ce moment. Il est vraiment comme un petit garçon au pied du sapin de Noël.
Ah non, je montrerai, je mettrai des photos, évidemment, sur le blog. Là, j'ai des petites figurines Android, là, des petits robots. Puis là, j'ai fait des mises en scène, puis je les ai photographiées sur ma table de salle à manger. Ah oui, des heures de plaisir en perspective pour le temps des fêtes.
Et toi, Christian, pourquoi tu es en Canon?
Ben moi, comme j'ai déjà expliqué dans le passé, j'avais tout perdu mon matériel quand je me suis fait voler. Fait que j'avais plus de comment je pourrais dire, je pouvais recommencer de l'un ou à l'autre sans aucune contrainte. Ouais. Exactement, c'est ça que je cherchais. Puis j'ai eu les mains sur une D300S puis sur une 7D qui étaient les deux modèles équivalents du temps. Puis moi, c'est vraiment l'ergonomie de la 7D qui m'a vendu. Il y en a qui l'aiment moins, il y en a qui trouvent ça moins naturel. J'imagine que c'est les habitués avec Nikon, mais à chaque fois qu'on me met un Nikon dans les mains, j'ai de la misère avec leur ergonomie de la façon que c'est fait. Il y en a qui aiment ça. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Je préfère la façon que Canon y va parce que, puis rappelez-vous, c'est le D600 que j'ai testé, que j'ai adoré l'appareil. Il faisait des photos superbes, puis même plus brillantes que je trouve que mon appareil, mais l'ergonomie, elle ne me revient pas. J'ai bien de la misère avec.
Oui, ben je vais en parler parce que moi, j'ai testé aussi le D610 et puis j'ai eu un peu le même problème, mais j'en ai pas tenu compte dans ma critique, pendant mes tests, mais je peux pas dire que je suis autant à l'aise avec un appareil Nikon qu'avec un Sony, un Canon, un Fuji.
C'est ça.
Je sais pas pourquoi. C'est une question d'ergonomie. C'est pas une question de comment je pourrais dire, de préférence, de fanboy ou de quoi que ce soit.
Non, c'est pas les performances, rien dire, parce que...
Non, c'est pas les performances.
Ils sont particulièrement capables, mais il y a quelque chose que je trouve, comme tu dis, qui est pas aussi simple, on dirait.
Ouais, c'est une question de goût, une question d'ergonomie ou de prise en main. Puis à un moment donné, il y en a des gens pour qui ça va cliquer tout de suite, puis ils vont comprendre le fonctionnement du Nikon et ils vont être habitués dès le départ. Voilà. Puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile, comme nous, finalement. Je sais pas pourquoi. On n'a pas la... Je sais pas.
Ouais.
Ça ne rentre pas, tout simplement.
Moi, pour ma part, Stéphane Lenny, c'est la raison pour laquelle j'ai dit Canon. C'est pas compliqué. Je travaille en télévision avec des objectifs Canon. C'est souvent l'objectif qui est le plus populaire. Et c'est le sens de la course du foyer. Quand on veut, on appelle ça tirer ou pousser le foyer. Donc, c'est assez visuel. Quand on dit on tire le foyer, c'est-à-dire qu'on amène la mise au point vers l'objectif. Et quand on le pousse, on l'envoie vers le fond de l'image. Donc, moi, depuis 20 ans, je suis habitué de tirer, pousser le foyer toujours dans le même sens. Mm-hmm. Donc, si je tire, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je pousse, je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, pour la photo, même si on travaille souvent en autofocus, ben je fais de la vidéo aussi avec ma 7D. Oui. Donc, pour moi, c'est tout naturel de continuer à travailler dans ce sens-là. Fait que c'est la seule et unique raison. J'ai pas eu le temps de checker avec un Nikon au début si j'aimerais l'ergonomie. Tout de suite, j'ai adopté l'ergonomie Canon. C'est pour ça que du côté Nikon, ben j'embarque dessus puis je suis juste pas capable.
Ben c'est ça.
Mais c'est pas par dégoût. C'est pas du tout. C'est
puis
comme ça.
Je le mentionne souvent, les Nikon ont une excellente qualité visuelle et optique. Oui. Les objectifs ou... Puis,
oui, on fait pas de débat là, là-dessus.
Non, c'est
là.
Ça. Puis dans les Nikon, souvent même, il y a des capteurs Sony. Ça n'a rien à voir avec le nom, la marque ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment une question de préférence personnelle, tout simplement, sans dénigrer l'autre marque. Là.
Voilà. Alors, j'espère qu'on a répondu à tes questions, mon cher Stéphane Oligny. Merci beaucoup pour ta question.
Parfait. Maintenant, on va passer à un petit sujet, étant donné qu'on est en toute fin d'année. On a reçu, en fait, Canon a émis ses prévisions pour l'année 2014, ou en fait leur année fiscale qui commence sous peu. Donc, on va laisser Christian un peu élaborer là-dessus.
Ben, je pense que je ne surprendrai pas personne en disant que les ventes sont pas super bonnes. Ben, en fait, on parle de Canon, mais j'ai vu il y a quelques semaines que Nikon non plus, ça allait pas particulièrement bien. Là. Quand on est on n'est pas vraiment en crise économique, mais quand on est en ralentissement économique, ben le monde n'a pas beaucoup les moyens, ben sauf Stéphane, là, de s'acheter des appareils photo. Là.
Moi, j'ai un deuxième revenu, je vous ferai remarquer.
Oui, c'est
là.
Ça.
Sinon, je pourrais pas me permettre ça. Excellent.
Mais non, c'est ça. Donc, évidemment, ben ce que ça fait, ça fait que des compagnies genre Canon, ben leur... Oui, les bénéfices ont bondi de 17%, ce qui pourrait dire, ben OK, ça va très bien, tout est correct. Sauf que ce qui se passe, c'est que sur le côté des appareils photo, bon, la gamme des réflexes, ça va quand même assez bien. Je pense que bon, ils ont trouvé quand même une niche assez intéressante là, du côté photographe. Je disais récemment que je pense qu'ils ont comme 70% du marché des DSLR Canon.
Ah oui?
Puis, ouais, c'est énorme. Là. C'est la grosse majorité du monde ont une DSLR Canon. Puis, le problème, c'est plutôt dans leur compact. Oui. C'est là que le déclin s'en vient. Évidemment, bon, il y a les téléphones intelligents qui sont en train de leur gruger beaucoup, beaucoup de leur...
En train de leur damer le pion carrément.
Exactement. Ben, oui. Je veux dire, qui veut traîner deux appareils photo quand tu peux avoir... Un téléphone qui prend maintenant des photos sensibles. Ben, ouais. Si on regarde, mettons, comme ton Lumia 1020,
ouais.
Les photos qui sont prises par ça sont impressionnantes. Même, je dirais même, dans certains cas, meilleures que quelques petits compacts que tu peux acheter pour 100-150$.
Ouais, fait
que, qui veut traîner deux appareils photo à ce moment-là?
Ben, c'est ça. Puis l'iPhone 5S qui est sorti cet automne, il est resté à 8 mégapixels, mais ils ont agrandi le capteur de 15%, donc les photosites sont plus grands et ça fait de très bonnes photos. C'est juste, la plupart des téléphones, le seul problème, c'est la faible luminosité. Sinon, ouais, en plein jour, ça prend de superbes photos, là, à 8, 10, 12 mégapixels. Ben,
on s'entend-tu que toi puis moi, que même un petit compact, quand tu prends des photos et qu'il n'y a pas de luminosité, les photos sont pas mieux?
Ah, ben oui, c'est un fait. Puis t'as pas plus sur beaucoup de compacts, t'as pas plus de contrôle manuel ou quoi que ce soit là, pour faire les réglages. Donc,
Fait que c'est ça. Eux autres, ils parlent dans le fond là, d'une baisse d'environ 5,3% là, de ce marché-là, là, ce qui est quand même assez significatif. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. On regarde que... Je repense à Sony qui ont sorti là, c'est quoi? C'est le
QX10 et QX100.
C'est ça. Qui est ces petits objectifs-là qu'on peut connecter à un téléphone intelligent. C'est peut-être plus quelque chose qui va être le futur.
Ouais.
qui sait, peut-être que Canon va nous sortir quelque chose du genre, Nikon, je sais pas, parce que moi, j'avoue que les compacts, là, le marché de tout ça, là, je sais pas pour combien de temps encore qu'on en a. Ça va toujours rester, d'après moi, parce qu'il y en a qui vont toujours préférer avoir ça, mais la part de marché risque d'être très, très, très diminuée.
Ben moi, je prédis que d'ici 5 à 7 ans, là, il restera presque plus de compact sur le marché, là, sinon plus du tout, parce que justement, dans 5 ans, imaginez ce que les appareils, les photos des téléphones cellulaires, là, des téléphones mobiles vont faire. Ça va dépasser les
Ben,
compacts actuels.
c'est que d'après moi, c'est que les compacts vont changer tout simplement de définition. On va avoir des compacts très, très, très puissants, là, avec, mettons, je sais pas moi, plein capteur ou des affaires comme ça, qui vont rester un appareil très petit, très maniable, mais qui est pas.
Ils vont
T'sais,
peut-être se
qui...
spécialiser un peu
C'est
plus,
ça,
là,
le
c'est
plus
ça.
spécialisé. On verra. On
Enfin,
verra.
seul l'avenir nous le dira.
Exactement.
Ensuite, petite nouvelle dans le monde de la photographie au Canada. Il y a eu des changements, une loi qui est passée au niveau du droit d'auteur pour les photographes qui octroie automatiquement le droit d'auteur au créateur de l'œuvre. Donc, le photographe, par défaut, est propriétaire de son œuvre. Sauf évidemment s'il signe une entente avec son employeur ou la personne pour qui il effectue le travail, qui dit clairement qu'il cède ses droits. Sinon, contrairement à avant où
Mais
c'est.
ça vient clarifier un
Oui,
peu
c'est
la
ça, parce que
chose.
c'était plutôt flou, là.
Ouais,
C'était comme une zone grise, puis.
exactement. Non, c'est une excellente nouvelle parce que par défaut, l'employeur doit faire signer la photographe. Donc juste ça, moi je trouve que ça donne le ça donne ça nous revient droit au photographe, tu sais, carrément. C'est pas nécessairement la personne qui te paye qui devrait avoir les droits automatiquement. T'sais. Bon, ceci étant dit, il va en avoir plein de feuillets à signer, là. Ça va juste être normal d'accepter un contrat en remettant le copyright de ses photos, mais au moins, tu as signé. T'sais, donc, tu y as pensé. Ça ne s'est pas fait tout seul dans une espèce de flou, là, t'sais,
C'est ça.
pour regarder pour garder les termes photographiques, là.
Bon jeu de mots.
Merci.
Donc, ben, c'est ça. Je ne sais pas si toi, Christian, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus ou.
Non, mais moi, je suis juste content, comme on dit, qu'on ait un petit peu plus de clarification par rapport à tout ça, de savoir que tu sais, ça nous revient vraiment à nous. Je trouve ça intéressant, là. Il était temps, là, mais en tout cas, à savoir vraiment quel impact ça va avoir sur le jour, tu sais, sur ce qu'on fait, nous, je suis pas convaincu que ça va en avoir beaucoup. Des professionnels, peut-être, là, mais je sais pas.
Oui, c'est ça. Ben, de toute façon, comme tu vois, moi, pour certains clients, déjà, moi, j'écris surtout des articles, mais déjà, il y a des clients qui me demandent de signer un document leur cédant les droits de mes photos si j'ai à fournir des photos pour les articles. Donc, la plupart le faisaient déjà d'emblée. Donc, ça va pas changer. Il y a plusieurs personnes, plusieurs entreprises pour qui ça ne changera rien parce qu'ils le faisaient déjà. Mais les autres, où justement, on n'était pas certain. Ah, là, tu as pris des photos dans le cadre de mon événement ou parce que je t'ai demandé ou là, qu'est-ce qui se
Bien, ce qui
passe?
n'était pas clair, c'est quand c'est rémunéré d'une façon ou d'une autre. Là. Je parle pas nécessairement monétairement, mais quand c'est rémunéré. Donc, quand c'est une photo, disons toi, Stéphane, tu prends une photo, un événement que j'ai organisé, on s'entend, il n'y a pas de rémunération à faire là. Mais si c'est dans le but de diffuser la photo, on a parlé de ça, de la diffusion, dès que ça devient diffusé en quelque part, c'est là que c'est clarifié finalement ce truc-là.
Et le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens qui prévoient faire un petit contrat, que ce soit payé ou non, entendez-vous à l'avance avec la personne qui
Ah
vous
oui.
demande de prendre des photos
Oui.
ou la personne qui organise l'événement.
Absolument. Oui.
Comme ça, vous allez éviter des malentendus ou des problèmes.
Oui. Mais oui, c'est vrai. C'est toujours mieux, mais ça vient aider justement les personnes qui ne se seraient pas entendues.
Ben, c'est ça. Ou à la limite, vous dites, ben, écoutez, oui, je suis d'accord, je vais prendre des photos, mais comme vous ne me payez pas, la loi dit que je conserve mes droits, ou vous dites tout simplement, je vais conserver mes droits, puis
Exactement.
on pourra s'arranger à l'amiable. Si vous voulez des photos, je vais vous en fournir quelques-unes, ça me fera plaisir. Mais au moins de discuter avec la personne qui vous demande de prendre des photos ou qui organise l'événement auquel vous allez prendre des photos. Comme ça, ben, au moins, il n'y a pas de. Justement, la zone grise est effacée et personne ne va être frustré parce que même si la loi maintenant octroie le droit d'auteur, dit que l'auteur conserve tous ses droits, Bien, l'employeur ne le sait peut-être pas, lui, il n'est pas au courant nécessairement de la loi. Donc, ça peut créer des frictions ou des frustrations à ce niveau-là, puis ouais. C'est pas idéal. Donc, au moins, en clarifiant les choses dès le départ, bien, ça élimine toutes ces choses-là. Donc, alors ça conclut, mais si jamais vous avez des questions sur le texte de loi en tant que tel, qui est rédigé évidemment dans un français très légal et complexe, je vais poster le lien dans les notes d'épisode et puis vous pourrez aller le lire. C'est en français et en anglais, évidemment, puisque ça s'applique au Canada. Et François, maintenant, a une bonne nouvelle pour Christian et lui, finalement, et les autres amateurs du Canon 7D.
Oh là là, le 7D Mark II. Mais attention, il n'est pas encore annoncé officiellement.
Non, 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 mais la rumeur devient de plus en plus forte.
Oui, ça serait. Alors, pour aller dans les rumeurs...
Il y en a trop maintenant, ça n'a plus de sens. Ça, ouais. ça s'en vient, là.
Oui, mais je vais y aller avec ce qu'on sait, OK, jusqu'à l'instant.
Oui, parce qu'il y a des caractéristiques qui ont... Il y a eu une fuite, supposément, des caractéristiques sur Internet.
Ben, il y en a toujours quelques-unes.
Mm-hmm.
Alors, à jour, au moment de l'enregistrement du podcast, je suis obligé de dire ça parce que ça peut aller vite. Il y a un nouveau capteur, OK, sur la CD, c'est ce qu'on sait. Quel capteur, on ne le sait pas encore, mais on sait qu'ils vont changer le capteur. Il va avoir un autofocus similaire à la 5D Mark III, c'est-à-dire 61 points dans le collimateur. Deux collimateurs? Ou...
En fait, 61 collimateurs.
Collimateurs, direct, carrément 61 collimateurs, il n'y a pas juste un. Il va être capable de faire 10 à 12 images secondes en rafale.
Mm-hmm.
La tropicalisation du boîtier va être encore meilleure. Ça serait de haut rendement, j'imagine, quelque chose comme la 1D ou quelque chose qui serait semblable. Parlant de la 1D, il va adopter le design de la 1DX, c'est-à-dire une grippe intégrée.
Une poignée, ah oui, intégrée.
Intégrée. Donc, le boîtier va être plus gros. Ça ne sera pas un ajout, la grippe, ça va être intégré.
OK.
Attends, ça, c'est des rumeurs, là.
Oui.
C'est toujours...
Mais j'essaie de le visualiser, tout simplement, mais je trouve que ça ferait gros un peu, mais ça pourrait devenir l'espèce de haut de gamme des capteurs rognés, finalement. Là. Ça serait
oui,
le chef de file.
C'est
là.
Ça qu'ils veulent faire. Ouais, ouais. Moi, parce que regarde la 70D en ce moment, je veux dire, elle est presque meilleure que la 7D.
Oui, c'est
que...
ça.
Oui, c'est normal. Ça l'a fait son temps, la 7D, là, quand on regarde la technologie aujourd'hui. Processeur, c'est le Dual Digic 5 Plus qui équiperait cette 5D Mark II.
Donc, dual parce qu'il y en aurait deux, comme il y a deux processeurs Digic 4, je crois, dans la 7D actuelle.
Oui, je pense que c'est ça. Une seule carte, compact flash ou SD, on ne sait pas encore. Ça ne mentionne pas dans les rumeurs. Il obtiendrait le Wi-Fi et le GPS. Et puis, ça serait orienté vraiment vidéo.
Ben moi, je présume, c'est pas écrit dans les rumeurs qui ont fui sur Internet, mais je présume qu'ils vont mettre la technologie de la double pixel du 70D. Là. Ça serait juste logique. Si c'est orienté vidéo, oui. Je pense que ça serait la chose logique à faire. Là.
Je suis d'accord avec toi, parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir un modèle qui est plus bas, puis qui lui le fait, puis pas le donner à ton plus
haut. Ben c'est ça, c'est une nouvelle technologie. Puis moi, en tout cas, j'ai été impressionné quand je l'ai utilisé. Puis, j'ai pas utilisé non plus, à part quelques minutes, le 5D Mark III. Là, pour le 1DX, j'y ai jamais touché non plus.
Oui, moi non plus.
Donc, mais je présume qu'un 7D avec la technologie à double pixel, là, ça pourrait donner des résultats.
J'ai touché la 1DX.
Oui. Ah oui, à un salon de photo. Là.
Donc, elle se retrouverait avec un paquet de fonctions vraiment alignées vers la vidéo.
Mm-hmm.
C'est ce qu'on dit. Et, côté performance ISO, ça monte jusqu'à 25 600,
mm-hmm,
en ISO. Et le boîtier serait autour de 2 100 $ environ, quelque chose comme ça.
D'accord.
Donc, c'est quand même plus cher que la version 7D d'origine. Quand on regarde le prix du boîtier, il était à 1599, si je me souviens bien.
Quand c'est sorti. Boîtier seulement? Pas sûr.
1499, en tout cas, c'était autour de ça, 1500 ou 1600 $.
Oui, mais de toute façon, le 70D en ce moment est 1400, je pense, juste le boîtier. Oui. Fait que c'est clair qu'il va avoir au moins 400-500 $ de plus.
Donc, c'est ce qui est en date d'aujourd'hui comme information.
Mm-hmm. Parfait.
Sur la 7D Mark III, qui va probablement à tout le moins nous intéresser, moi et Christian, d'aller fouiller là, quand ça va sortir.
Ah, oui, c'est sûr qu'on veut au moins l'essayer. En tout cas, ça, c'est sûr et certain.
Ah, c'est clair. Je vais faire des gros... je vais travailler fort dans les coins pour avoir un démo à ce moment-là. Et bon, ben partons des rumeurs et concentrons-nous maintenant sur des annonces bien réelles. Il y a eu beaucoup d'annonces de boîtiers de la plupart des fabricants récemment. Puis Christian va nous faire une petite liste rapide là, de ces annonces-là.
Oui, c'est ça. On a quand même quelques annonces assez intéressantes, dont une, en tout cas moi, qui m'a surpris. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la Nikon DF.
Ben, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu.
C'est... Dans le fond, c'est le vieux modèle de Nikon qu'on a vu, là, qui date, là, t'sais, très, très rétro, là, qui doit dater de, je sais pas moi, 20-30 ans.
Mm-hmm.
Ils ont décidé de refaire la même chose, le même modèle que ça.
Oui, j'ai vu passer ça.
Elle est magnifique, c'est très, très beau.
Oui.
Mais ce qui est le bout, moi, qui m'a surpris le plus, bon, tu sais, on est habitué maintenant, ils font le style rétro, c'est très à la mode, tout ça. Mais le bout intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vidéo sur cet appareil photo.
Ah bon?
C'est un plein capteur, 16 mégapixels, la même chose que la D4.
Mm-hmm.
Elle ressemble beaucoup à la D4, mais ils ont décidé que cet appareil photo-là, ça serait un appareil photo.
OK.
Sans plus.
Ah, mais je vois ISO extensible jusqu'à 204 800.
Oui.
Incroyable. Ben, évidemment, il y a du bruit rendu là, mais je présume qu'en allant jusque-là, tu peux avoir peut-être jusqu'à 12 800 qui aura à peu près pas de bruit. Là.
Oh, oui, c'est assez impressionnant, sincèrement. Puis, ils sont même allés jusqu'à créer un nouvel objectif avec un style un peu plus rétro pour aller avec. Tu sais, eux autres, là, ils veulent aller pour les fans. Mm-hmm. L'ennemi, est-ce que j'ai cru voir?
Le F, c'est pour fan? Non, c'est pour fusion je vois dans l'article.
Fusion, oui. Le problème, ce qu'il disait, par contre, c'est que le prix est pas super, par contre. J'essaie de retrouver.
Oui, hein, je pense que c'est cher. C'est comme au-dessus de 2500, quelque chose comme ça.
En tout cas, le prix que j'ai trouvé, il parle de 2750 livres sterling, soit environ 4400. Je peux pas croire que ça va être ce prix-là, mais on sait jamais. En tout cas, on va voir, mais c'est quand même très cher, d'après moi, pour ce genre d'appareil-là.
Mais en tout cas, je vois... Mais tout seul, le boîtier serait 2749 aux États-Unis, ce qu'ils disent.
Moi, c'est ce que j'ai aussi sur DeepReview.
DeepReview.
Moi, c'est ce que j'ai sur DeepReview, en tout cas. C'est le review.
DeepReview, c'est ça.
Bref, pour dire qu'il est quand même plus cher que... c'est ça. Tu vois, moi aussi, je l'ai retrouvé, moi, à 2749. Mais c'est quand même assez dispendieux.
Oui, franchement, là. C'est un appareil de passionné, on s'entend à ce prix-là.
Oui,
c'est de nostalgique.
Oui, mais de toute façon, c'est clair qu'en achetant ça, c'est un investissement pour attirer le regard des gens. Là. Écoute, tu vas sortir avec cet appareil-là, qui a vraiment un air rétro, qui a un paquet de molettes sur le dessus. Ça flash, là, vraiment, t'attires le regard. Mais il faut être prudent, ça va attirer les voleurs aussi peut-être.
Oui, c'est
là.
Sûr.
Mais... Enfin, non, c'est quand même un beau look, c'est spécial, c'est différent un peu. Ça a vraiment l'air très mécanique, là, très rétro.
C'est ça. On a également Fuji. Fuji vraiment aussi est assez en feu, je trouve. Sort appareil par-dessus appareil.
Oui.
Il nous annonce maintenant le XE2.
Mm-hmm.
Qui est d'après ce que je peux voir, relativement c'est intéressant. Dans le fond, c'est comme une X100S, mais avec l'objectif où on peut changer son objectif. Donc, ça devrait avoir une performance assez intéressante.
Mm-hmm.
Et également le XQ1, un petit appareil compact là, de 12 mégapixels, encore une fois avec ce même processeur-là, mais il n'y a pas le look rétro dans le cas présent, avec un objectif de 25 à 100 mm, f1.8 à 4.9.
Mm-hmm.
Petit appareil, là, ça pourrait être quand même assez intéressant, là, à peu près des environs de 500. Il y a aussi Panasonic, le DMC GM1.
Mm-hmm.
J'aime pas particulièrement comment que Panasonic appelle leurs appareils.
Et c'est comme ça pour tous les appareils, que ce soit des appareils photo ou des trucs multimédia, là, ils ont tous des noms DMC, DSP, quelque chose avec des chiffres. C'est impossible de s'y retrouver si tu regardes une liste dans un catalogue quelconque. Là,
je trouve ça mélangeant. Là, ça n'a aucun sens. En tout cas. Donc, c'est ça. Ils nous sortent encore un autre... Ils sont très forts sur les micros 4 tiers, évidemment. Et cette fois-ci, semble-t-il que c'est un des plus petits au monde.
OK.
J'ai hâte de voir ça dans mes mains. On sait que, bon, Panasonic ont quand même des très bons appareils micro 4 tiers. Fait que, je sais pas, on va voir qu'est-ce que ça va donner, là, qu'est-ce qu'il y en a comme la performance et tout. On parle d'un processeur, un capteur de 16 mégapixels. Donc, un ISO de 125 à 25 600. Fait que, on voit que ça commence à devenir pas mal la norme pour aller jusqu'à 25 600, là, à savoir jusqu'à où est-ce que on a un niveau de bruit acceptable. Par contre, là, ça, c'est une autre histoire. Là.
Ouais, ouais.
Puis finalement, ben, on a également le Olympus Stylus 1. Une autre compagnie, je trouve que vraiment, a repris beaucoup de poils de la bête, Olympus, franchement. Là. Eux autres aussi ont l'air de sortir un appareil aux 3 mois.
Mais c'est depuis quoi, 1 an et demi, peut-être 2 ans maximum, là, depuis le OMD EM5, finalement. Ouais. C'est on dirait que Olympus s'est relancé là, dans le marché de la photo. Parce qu'avant ça, je sais pas, c'était vraiment pas un nom qu'on regardait si on magasinait un appareil photo. Puis maintenant, ben, ils sont revenus.
Ben, ça l'a déjà été. Mais
oui, mais récemment, je parle. Là,
non, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment celui-là qui les a relancés. Puis moi, je le dis, je le répète, tu sais, j'ai beau être un fan de Canon, plus il y a de compétition, tout le monde y gagne.
Oui, absolument.
Tout le monde est gagnant parce que ben ça force les autres à donner un meilleur produit.
Ben oui, puis c'est d'ailleurs probablement ça qui a inspiré Sony à faire les deux boîtiers qui sont sortis à plein capteur, le A7 et le A7R. Et tout le monde est gagnant, puis moi je suis plus pauvre un peu.
Oui, je m'en doute.
Mais non, tu parlais de Panasonic aussi. Ils ont annoncé en fait d'autres boîtiers entre-temps, dont un qui est le GH4.
J'avais pas fini pour l'Olympus.
Ah, excuse-moi.
C'est pas grave.
Ben, continue.
Il n'y a pas de stress, c'est correct. C'est juste parce que j'ai pas pu en parler pendant toute la...
Okay,
c'est ça, c'est le Olympus Stylus 1. C'est un super zoom compact, 12 mégapixels. Mais ce qui est intéressant de cet appareil-là, on parle d'un objectif de 28 à 300 mm.
OK.
C'est quand même pas si mal.
Ouais.
Mais avec une ouverture constante de 2.8.
Ben, ça, c'est vraiment super, ça.
Ouais.
Ça, c'est pas mal, c'est pas mal.
2.8 à 300 mm dans le comparatif, là, sur le marché.
C'est bien. La seule chose, par contre, puis c'est là que le bas blesse souvent, c'est parce que c'est pas un gros capteur. On parle d'un capteur de 1 sur 1 septième. Fait que c'est pas...
1 sur 1.7 pouces.
Ouais, 1 sur 1.7 pouces. C'est pas très gros, là. Fait que, bon, le niveau de détail, généralement, est pas énorme. Mais quand même, je veux dire, ça a quand même son utilité, sa pertinence comme genre d'appareil, puis... C'est moins gros qu'une DSLR. Fait que beaucoup de monde vont apprécier ça. Il y a définitivement un marché là-dessus. À savoir, si on peut mettre la main dessus puis l'essayer, ça aussi, ça serait peut-être pas mauvais.
Oui. Ben, les gens d'Olympus, d'habitude, ils sont très, très gentils, très aimables. Puis...
Oui, je m'en rappelle.
Bon, ben, ça, on va allonger la liste pour 2014. Et c'est ça, il y a Panasonic qui annonçait en fait d'autres appareils, dont le GH4, qui est un appareil, bon, un micro 4 tiers, là, un appareil hybride, qui va avoir la possibilité de filmer en 4K. Donc, ça va peut-être intéresser François.
Oui. N'importe quoi qui est en 4K, c'est toujours intéressant.
C'est ça. Capteur, bon, 16 mégapixels, un écran OLED, donc assez intéressant. 3 millions de pixels d'affichage, donc extrême qualité sur dans le viewfinder, là, 3 millions de pixels. Le viseur numérique du Sony Nexus et du A7, là, mais les deux appareils que je possède, je crois qu'il est à 2,4 millions de pixels, et c'est déjà quand même bien. Là, l'image est super nette dans ça, donc à 3 millions de pixels, c'est encore mieux. On parle d'encodage MP4 à 200 mégabits seconde. Ou 100 mégabits en IPB. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
Non, je ne connais pas.
Le 4K, 30 images secondes. Donc, ça va être mieux que la Euro 3 ou 3+. Oh.
Ouais,
ça va être du vrai 4K à 30 images secondes. Et bon, un paquet d'autres trucs. Un adaptateur XLR. Donc, pour le son en plus.
Ouais.
Et un petit prix de 2 800 euros. Tout simplement.
Ben, ça va venir compétitionner peut-être avec la Blackmagic, peut-être.
Probablement. Mais qui est beaucoup moins cher, de toute façon. Je pense que c'est autour de 1000 $ ou...
Le prix, je...
En tout cas. Mais ouais. C'est en bas de 2000, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est sûr que cet appareil-là de Panasonic est plus cher, mais restera à voir, faire un comparatif. Peut-être qu'un jour, on pourra mettre la main sur la fameuse Blackmagic Pocket Cinema Camera. Enfin, on verra. Et bon, il y a d'autres appareils. Là, en tout cas, ça va être encore une grosse année, d'après moi, 2014, là, surtout au niveau des appareils hybrides, des DSLR aussi, évidemment. Là, mais les micros 4 tiers, là, que je me plais à surnommer les appareils hybrides maintenant, c'est plus simple. C'est vraiment la tendance, là, d'après moi, qui va dominer dans les quelques années à venir.
Avoir la quantité qui en sort maintenant en plus, ça n'a plus de sens.
Ben, c'est que c'est tellement pratique, c'est plus compact, c'est plus léger. Donc, même moi, là, quand je suis allé en vacances là, l'hiver dernier, je venais d'acheter le Nexus. Puis ma conjointe pouvait prendre des photos avec ça. Puis on avait un capteur APS-C là-dedans. Là, donc, ça faisait de superbes photos. Et elle n'avait pas l'impression justement d'avoir un appareil complexe entre les mains comme avec mon Canon 60D. Mm. Donc, même si je lui prêtais l'A7, là, sous supervision.
Sous supervision, oui. C'est bon qu'elle t'écoute pas.
C'est ça. Non, non. Mais je suis sûr qu'elle pourrait le prendre en main puis probablement être plus à l'aise malgré tout qu'avec le 60D. Et pourtant, bon, cet appareil-là est encore plus performant, là. Donc, c'est vraiment une question aussi de perception du public en général, que ce soit les pros, les amateurs, peu importe. Par contre, en parlant de perception, justement, je ne sais pas si on approche du jour où on va voir des photographes de mariage ou d'événements avec des boîtiers comme ça, hybrides. Parce que si, admettons, moi, je me pointe pour photographier un mariage ou un événement avec le Sony A7, je serais curieux de voir la réaction des gens qui diraient « Ah, il n'y a pas un gros appareil. Est-ce que c'est vraiment un professionnel? »
Elle serait probablement négative.
Oui, c'est ça.
Je peux t'en parler. Il y a une dizaine d'années, en télévision, est arrivée une espèce de vague de petites caméras vidéo. Mm-hmm. On parle de... C'était comme un peu, s'il y en a qui s'en souviennent, des Handycam de Sony. Ouais. Sauf que c'était des caméras qui étaient très, très, très près, un peu comme les micros 4 tiers ou les hybrides, qui étaient de qualité presque équivalente à ce qui se faisait professionnellement à ce moment-là. Mais il y a eu effectivement une image... un peu
un mouvement de recul,
de bien du monde, y compris moi-même. Quand j'ai vu ces caméras-là arriver, je me suis dit, c'est pas sérieux. T'sais, c'est... mais la qualité d'image était presque là. Était vraiment pas loin. C'est, où est-ce qu'il y a eu une différence, c'est dans l'opération de l'appareil. On pouvait pas être aussi rapide avec ces petites caméras-là parce qu'il n'y avait pas tous les boutons qu'on a sur un boîtier professionnel.
Okay.
Donc, c'était ça un peu le... Mais côté image, c'était... Vraiment, à l'œil, là, c'était aussi beau ou presque. C'est juste les capteurs qui étaient moins gros. Donc, la profondeur de champ était plus compliquée à travailler. Mais, tu sais, tout était toujours au foyer. Puis quand on veut une belle image, souvent, on veut décoller notre sujet du fond. Fait qu'on veut que ça soit flou en arrière, blablabla. Fait que c'était un petit peu ça, le
problème.
Son problème qui n'a pas vraiment surmonté. Par contre, il y avait des choses qui étaient vraiment intéressantes. C'est-à-dire, si on avait un tournage à faire dans des endroits... où on devait être un peu plus discret, ah ben là, c'est un plus. Donc, en photographie, c'est la même chose. Ces appareils-là, en plus qu'ils ont une fonction vidéo, vont se rendre à bien plus d'endroits que des photographes professionnels avec leurs gros boîtiers.
Oui, absolument, mais dans des endroits où ils sont acceptés. En fait,
oui, mais là, tu parles de mariage, mais je te parle d'autres endroits où ça serait un petit peu plus touché de faire de la photo parce qu'il y a des gens qui te voient arriver avec ton gros boîtier. Ils savent que tu es un photographe sérieux, entre guillemets.
Donc ça, c'est plus passe-partout.
Alors, carrément
un
touriste.
Sony A7 ou A7R.
Tu as l'air carrément d'un touriste.
C'est ça, malgré que l'objectif est plus gros un peu, mais même à ça, à la limite, tu peux essayer de te trouver peut-être un objectif pancake, là, les objectifs plats. Puis ça va passer inaperçu, puis tu te retrouves avec un plein capteur, puis des fonctions incroyables là-dessus.
Mais pas de doute que côté qualité d'image, on accote très sérieusement ce qui se fait avec les gros boîtiers.
François, j'ai une question pour toi.
Oui?
Les petits appareils photo cinéma Canon, genre les EOS C300 et tout ça, as-tu déjà travaillé avec ça? Parce que c'est petit.
Je travaille énormément avec ça. C'est très à la mode en ce moment en production télé.
Parce que comparé à vos grosses caméras, c'est pas mal plus compact, ça, justement, ce genre d'appareil-là.
Ça amène exactement à ce que je mentionnais. C'est plus compliqué à opérer. On tombe plus dans un mode cinéma avec ces caméras-là parce que les contrôles dessus sont moins manuels, puis on passe plus souvent par le menu. Donc, okay. Ça a un prix d'avoir un boîtier plus petit. C'est moins lourd, mais c'est moins rapide pour ajuster on the go, si on peut dire, là, tes paramètres. Par exemple, un changement d'éclairage en vidéo, c'est compliqué. Là. Il faut changer le diaphragme. Puis ça, il faut le faire en douceur parce que c'est comme 30 images secondes. Il faut tout le temps corriger ça pour que ça soit smooth. Donc, la C300, si on n'a pas un objectif avec une ouverture manuelle sur l'objectif, ben ça donne pas des bons résultats.
Ah, oh, intéressant.
Oui. C'est moins cher, mais ça a un prix.
Ah, il y a toujours des compromis qu'il faut que tu fasses.
Oui, oui. Ouais.
Bon, ça fait un peu le tour, mais on parlait de lumière, là. François parlait de lumière et ça va nous amener à l'autre sujet. On va parler un peu de light painting, donc de photographie dans l'obscurité, mais en faisant l'espèce de peinture avec de la lumière finalement.
Ouais.
Donc, je vais te laisser, parce qu'il y a un truc qui est passé sur Internet, là, qu'on a vu passer, et puis je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler pour justement montrer jusqu'où ça peut aller. Peut-être qu'un jour, ça va aller encore plus loin, mais je pense que ça, c'est l'exemple parfait, total de ce que le light painting peut faire.
Les gars, là, je vais juste situer c'est quoi le light painting pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Mm-hmm. Le light painting, c'est avec une longue exposition d'utiliser une source lumineuse et de dessiner avec un geste du bras ou quelque chose comme ça, écrire une lettre ou faire le contour d'une personne, dessiner un halo de lumière autour de quelqu'un. Donc, c'est utiliser une longue exposition pour faire un trait de lumière, mm-hmm. d'où l'expression « light painting ». Il y a des gars qui ont décidé d'amener ça vraiment plus loin. c'est un projet Kickstarter pour ces gars-là. Donc, c'est un site où on amasse de l'argent pour réaliser son projet. Leur projet, ça s'appelle le « Pixel Stick ». Alors, le Pixel Stick, c'est un nouveau produit qui amène le light painting à un nouveau niveau. C'est un gadget dans lequel on téléverse une image, n'importe quoi, là. Ça peut être un logo, une image qu'on a prise avec un appareil photo, un graffiti, quelque chose comme ça. Donc, on la téléverse dans l'appareil qui se trouve être une espèce de tige qui est composée de 198 LED RGB.
Donc, des diodes qui peuvent prendre toutes les couleurs, finalement.
Exactement, qui ont les trois couleurs dedans, qui peuvent afficher n'importe quelle couleur de base pour composer à peu près, je ne sais pas combien de couleurs que ça peut afficher, mais en masse pour faire de quoi de joli. Et ces diodes-là sont placés en ligne droite. Donc, on peut afficher n'importe quelle image qui contient 190 pixels de haut par plusieurs milliers de large. Pourquoi de large? Pourquoi de plusieurs milliers de large? Parce que avec le mouvement du bras, on va bouger le light stick et lui va faire apparaître l'image étant donné qu'on est en longue exposition.
Il alterne les couleurs pour que...
C'est ça. Techniquement, oui. Les LED vont flasher, vont faire apparaître une image avec le déplacement qu'on fait. C'est un peu comme, juste pour mettre ça plus facilement comprenable, c'est un peu comme les horloges qui ont une espèce de tige là, qui bouge comme un métronome puis qui fait afficher l'heure dans l'air, qui flotte dans l'air. C'est un peu le même principe.
Une espèce d'hologramme de l'heure avec la tige.
Exactement.
Ouais. Okay.
Donc, ça donne un paquet de possibilités d'affichage d'images. Par exemple, c'est comme je disais tantôt, un graffiti. T'sais. Si on combine ça à un time-lapse en plus, on peut vraiment donc animer une image. On fait plusieurs affichages de plusieurs images pendant qu'on fait un time-lapse. Il n'y a rien de mieux que de le voir.
Hein? Oui.
Fait que je vous suggère d'aller sur notre page, aller voir les exemples. J'en ai posté quelques-uns. Vous allez tout de suite comprendre ce que j'essaie d'expliquer du mieux que je peux. Parce que c'est vraiment pas évident. Ça fait vraiment partie des sujets qu'il faut voir pour bien comprendre.
Vaut la peine de toute façon. C'est pas juste une question de le comprendre, c'est une question de voir. Et je vous garantis que vous allez être bouche bée devant ça, c'est incroyable ce que les types ont réussi à faire.
Oui, ça va vraiment vous donner le goût d'au moins faire du light painting de base. Mais en regardant ce que les gars font, t'es bouche bée. Vraiment, là, c'est vraiment quelque chose. Et puis, au moment de l'enregistrement, le but était largement dépassé. Donc, les gars, c'est sûr qu'ils partent en affaires, c'est sûr qu'ils vendent leurs produits. Ils vont sûrement avoir plusieurs versions différentes qui s'en viennent parce qu'il y a tout un intérêt autour de ce produit-là.
Ah, oui.
Donc, le Pixel Stick.
Déjà sur le site, là, on voit ça a l'air des banderoles suspendues dans l'air. C'est incroyable. Ouais. Allez voir ça absolument.
Ouais.
Et maintenant, pour conclure cet épisode, je vais vous faire la critique du Nikon D610, qui est en fait un modèle pour remplacer le D600 qui a connu malheureusement un paquet de problèmes de poussière ou de taches d'huile sur le ou de graisse, là, peu importe, sur le capteur. Et Nikon a préféré prendre le taureau par les cornes et tasser le D600 du marché et mettre le D610 en remplacement. Donc, ce qui est un peu dommage pour ceux qui avaient acheté un D600 récemment. Et...
Oui, j'ai vu quelques plaintes sur Internet récemment, d'ailleurs.
C'est un peu dommage parce que, justement, tu te dis, bon, je n'ai pas vécu le problème, mais est-ce que ça va survenir? Ça peut survenir à tout moment. Et là, je vois qu'il y a un nouveau modèle, même prix ou à peu près, je pense qu'il est peut-être 100$ de plus. Là. Enfin, c'est une question tout simplement de sauver la réputation de cette gamme-là, cette ligne-là, parce que le D600 faisait malheureusement beaucoup parler de lui pour les mauvaises raisons. Donc, comme je disais, bon, côté des caractéristiques techniques et fonctionnalités, il y a la même résolution, le même capteur, 24,3 mégapixels, même plage ISO couverte de 100 à 25600, le même système de mise au point automatique à 39 points. Et ce qui est changé, grosso modo, il y a trois items, trois points qui sont changés. Il y a un mode rafale un petit peu plus performant qui passe de 5,5 images à la seconde à 6 images à la seconde. Pour les photographes de sport, je présume que ça peut faire une différence. Là. Mais c'est ça, une demi-image seconde, ben, c'est pas la mer à boire non plus.
Ça ne serait pas vraiment la différence.
Mais bon, ça a été un petit peu amélioré. Un mode rafale silencieux, donc qui s'appelle Quiet C, donc Quiet C, qui est offert, qui permet de prendre jusqu'à 3 clichés à la seconde. C'est un peu comme le 5D Mark III ou même le 70D. Ils réduisent d'à peu près la moitié la vitesse de la rafale pour ralentir le mouvement, je pense, du miroir ou quelque chose comme ça, puis ça fait que c'est plus silencieux. Mais ça peut être très pratique. Justement, on parlait de mariage tout à l'heure pendant la cérémonie. Là, évidemment, c'est pas quelque chose qui bouge beaucoup un mariage. Donc, une rafale à 3 images secondes, c'est amplement suffisant là, pour capter un bon cliché. Puis, il y a le capteur aussi permet la capture de teint de peau et tout ça plus naturel. Donc,
et non de taches d'huile.
Oui, c'est ça. Mais la balance des blancs a été revue, c'est ça. Ça devrait mieux transmettre les couleurs sous un éclairage artificiel, dont les teintes de peau. C'est un truc qui tombe à point aussi avec la saison froide qui arrive et les teints plus blancs. En tout cas, au Québec, là, on perd. Les gens ont l'air un peu plus... un peu plus de zombies en hiver. Donc, écoutez, au final, moi, je l'ai essayé. Et là, c'est difficile parce que j'avais pas essayé le D600. C'est Christian qui avait fait la critique. Et malheureusement, j'aurais aimé qu'il l'essaie, mais on n'a pas réussi à se rejoindre pour qu'il puisse faire le test dans les délais pour lesquels l'appareil m'était prêté. Donc, c'est moi qui l'ai essayé. Mais j'arrive à peu près à la même conclusion que Christian. Excellent appareil. Très bonne qualité d'image, un paquet de fonctionnalités sur le boîtier, prise casque d'écoute, un paquet de choses utiles pour tant pour le photographe que le vidéaste. La seule chose, c'est ça, comme je dis, c'est que moi, j'ai moins aimé l'ergonomie, mais c'est vraiment une question de goût personnel parce que tout est là, toutes les fonctionnalités auxquelles on s'attend sont là. Donc, excellent appareil qu'on peut recommander à quelqu'un qui a un appareil Nikon. Peut-être, je sais pas moi, un D3200, quelque chose comme ça, qui voudrait passer à quelque chose de mieux, ben le D610 est un excellent appareil. Là. On peut facilement faire une mise à niveau de son équipement vers cet appareil-là. Par contre, c'est un capteur plein format. Alors, ça veut dire que si vous faites une mise à niveau d'équipement et que vous continuez à utiliser vos objectifs pour capteur rogné, évidemment, ben, ça va baisser la résolution ou la zone de captation de votre image. Mais normalement, je pense que les Nikon là, font l'adaptation sans problème. Tout comme mon nouveau Sony A7.
Ah, bon.
Fallait que je le plug.
C'est bien correct.
Non, c'est ça. Je vous ferai la critique, évidemment, au mois de janvier, quelque part. Parce qu'évidemment...
Quand tu auras eu le temps de jouer assez avec.
Oui, c'est ça. Parce que là, j'ai à peu près peut-être 25 clichés de prix en une journée. Là, c'est vraiment pas suffisant, mais... Il y a déjà, je suis quand même impartial parce qu'il y a des petits trucs qui sont pas parfaits, qui sont pas à mon goût, qui m'agacent, mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de l'apprécier ou de l'utiliser, mais enfin, plus de détails dans un épisode futur. Alors, on vous rappelle d'aller voter pour le défi photo numéro 9 sur la photo noir et blanc, afin de permettre à quelqu'un de gagner un abonnement d'un an à 500px. Et n'oubliez pas de vous joindre à notre communauté photographe amateur sur Google+. Donc, on est rendu à 620 quelques membres. Ça continue toujours de monter. Et on attend toujours la visite de François.
Oui, oui, oui. Je vais me présenter.
C'est ta résolution pour 2014, c'est ça?
Non?
Ah non, parce qu'on ne les tient pas d'habitude. Non, mais on ne les tient pas, nos résolutions. Donc, c'est pas obligé d'être une résolution, dans le fond.
Ouais.
Donc, pour ceux qui écouteraient l'épisode à sa sortie, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci d'être toujours avec nous après plus d'un an et demi. Et on se retrouve en 2014 à l'épisode 46. Merci beaucoup, François.
Merci, Stéphane.
Merci, Christian.
Merci, Stéphane.
Et merci, chers auditeurs. D'ailleurs, Joey, autre petite note, on vient de gagner dans la catégorie photo des MIB Awards, qui est en fait le Made in Blog Awards au Canada. Donc, le blog Objectif Numérique a remporté la première position, qui est tout simplement l'honneur d'être le choix du jury, si on veut, parmi les blogs photos. Il y en avait plus d'une dizaine parce qu'il y a eu 10 finalistes, donc je ne sais pas combien il y en avait exactement. Et Objectif Numérique a terminé premier, alors
on est très fiers.
On est très heureux, très fiers.
Oui.
Et on va continuer de mettre un paquet d'efforts pour garder le site dans le top des blogs photos au Canada, en tout cas, tout le monde.
Ouais.
Donc, alors voilà. Merci beaucoup, tout le monde, et à la prochaine.